www.radiofr.fr.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Demain se déroule en France une journée nationale sur le don d'organes et la greffe. Malgré une forte augmentation du nombre de greffes ces dernières années, ce nombre reste insuffisant, la France reste en situation de pénurie d'organes. Sur plus de 12 000 personnes en liste d'attente en 2006, seuls moins de 4 500 ont pu être greffées. L'objectif de cette journée est de sensibiliser le public sur ce problème. Pour en parler, je reçois le docteur Corinne Antoine, qui est membre de la direction médicale et scientifique de l'agence de biomédecine et néphrologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Nous entendrons également le témoignage d'Aline Février-Boulanger, 19 ans, qui raconte sa transplantation cardiaque dans un livre paru chez O Édition, « Mon cœur qui bat n'est pas le mien ».
Le 22 juin, c'est la journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe. Brice Tognolo.
Mon père est décédé et on m'a posé la question sur le prélèvement de ses organes. Il faut savoir que ça va vite, ça va très vite. Pour répondre au médecin, c'est à lui qu'on a pensé. C'est à sa personnalité, à des détails. Dans sa vie, mon père était quelqu'un qui donnait beaucoup. Il donnait son sang, il faisait attention aux autres. Et c'est en remuant tout ça, ça nous a aidé à penser à ce qu'il aurait choisi, lui. Aujourd'hui, c'est une décision que j'assume, bien sûr. Mais j'aurais largement préféré qu'il nous le dise, donner ou ne donner pas, c'est certain.
Le don d'organes, donneur ou pas, c'est important de le dire à ses proches et de savoir pour eux. Toute l'information sur agence-biomédecine.fr.
Docteur Corinne Antoine, bonjour.
Bonjour.
On vient d'entendre un des deux messages qui passent en ce moment, justement, pour inciter au don d'organes. Le deuxième message, c'est le vôtre. On entend justement votre voix qui incite au don d'organes. Pourquoi c'était important pour vous d'intervenir dans cette campagne? Pourquoi cette campagne est si importante?
On a un vrai problème en France en termes de position, de refus des familles lorsqu'elles sont interrogées en cas du défunt d'un proche, probablement effectivement par manque de communication au sein de la famille sur ce sujet qui est possiblement un peu tabou dans notre société. Et alors qu'on a augmenté de près de 40% l'activité de prélèvement et de greffe en France ces 10 dernières années, le taux d'enregistrement de refus des proches en cas de décès ne décolle pas des 35%, et ça fait donc un manque d'organes potentiels qui pourrait sauver des vies très important. Et donc cette campagne est là surtout pour objet de sensibiliser le grand public sur le fait qu'ils doivent réfléchir au don d'organes. Est-ce que d'ailleurs eux-mêmes, s'ils étaient atteints d'une maladie, ils aimeraient pouvoir bénéficier de cette stratégie de greffe qui marche formidablement bien, faut quand même le dire. Le succès aujourd'hui de la greffe rénale, de la greffe hépatique, l'augmentation très importante du succès de la greffe cardiaque et pulmonaire ces dernières années grâce à des nouveaux médicaments fait que
ça sauve des vies.
Ça sauve des vies et ça les sauve de façon durable avec une vraie vie, une vraie retour à la vie normale avec ce que je disais dans le message sur la radio, c'est-à-dire on retrouve sa vie professionnelle, on pratique le sport, les femmes peuvent avoir des grossesses, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on a un organe défaillant. Donc ça sauve des vies et ça sauve durablement la vie avec un vrai retour à la qualité de vie. Et donc posons-nous d'abord cette question et ensuite disons-nous qu'ils ne vont pas arriver tout seuls, ces organes. Et on sait bien que les Français sont très généreux, on le sait quand on voit les grandes opérations qui sont menées chaque année, le Téléthon, on sait dans les associations humanitaires qu'on est un peuple généreux. On sait aussi quand on fait des grands sondages que 84% des personnes interrogées sont favorables au don d'organes. Et puis, dès qu'on est en cette situation, qui est effectivement terrible, douloureuse, on ne peut pas y faire face parce qu'on ne connaît pas la volonté de son proche. C'est un désarroi supplémentaire. C'est un désarroi supplémentaire. On est dans un moment très douloureux, dans un décès brutal, inattendu, une grande injustice.
Il y a en plus un choix à faire.
Et on n'a pas la donne. On n'a pas les informations, on n'en a pas parlé avant. Et c'est vrai que le témoignage de Brice Tognolo est assez émouvant parce qu'il replace bien cette difficulté. Il dit bien d'ailleurs que...
Il aurait aimé savoir avant.
Voilà. Il a pris cette décision, il est relativement serein qu'il a pris la bonne parce qu'il connaît bien son père. Il est jeune, il a 20 ans quand même.
Et donc c'est vraiment l'objectif de cette campagne, c'est de dire aux gens, prononcez-vous, dites à vos proches. On sait que la mort est assez tabou dans notre société.
Prononcez-vous pour ou contre.
Mais dites-le.
Les deux positions sont respectables. Chacun son opinion en fonction de ses convictions personnelles. Mais positionnez-vous et permettez à vos proches de pouvoir répondre sereinement à cette question lorsqu'elle vous sera posée. Et moi, j'irai même plus loin. Positionnez-vous et interrogez vos proches aussi. C'est un dialogue. Et comme c'est effectivement un sujet difficile à aborder, la mort, d'abord, je pense qu'il faut l'aborder par la vie. Donc, est-ce qu'éventuellement, moi, je voudrais recevoir un organe si j'étais très malade? Est-ce que je voudrais que mon fils ou ma fille ou mon frère soit greffé? Et à travers ça, éventuellement, aller plus loin. Et d'ailleurs, les jeunes qu'on avait interrogés le disaient bien. C'est quand même difficile d'en parler. C'est un sujet tabou, la mort. Donc, il faut l'aborder positivement. On connaît
tous
ça. En disant
que ça redonne la vie. Alors, c'est justement le témoignage d'Aline Février-Boulanger. C'est une jeune transplantée cardiaque de 20 ans. Elle est atteinte d'une malformation cardiaque qui à terme en fait empêche le cœur de fonctionner. Elle raconte son histoire dans un livre qui est paru chez O Édition, Mon cœur qui bat n'est pas le mien. Alors elle a confié à Igor Strauss dans quelles circonstances elle a pu bénéficier d'une greffe. C'était à la suite d'un arrêt cardiaque lors d'une hospitalisation.
On est tous sur une liste d'attente, tous ceux qui attendent sont sur une liste d'attente française en fonction des urgences. Et ça signifie que le premier cœur qui arrivait compatible pour moi était à moi, c'était mon cœur, voilà. Et il est arrivé 4 heures après. Les gens peuvent se dire, ah, mais c'est super rapide et tout, c'est génial, mais non, parce que ça c'est le hasard, c'est le destin. Mon donneur est décédé pratiquement en même temps que moi, c'est le hasard. Il y a certaines personnes qui sont en premier sur la liste des greffes et qui attendent une ou deux semaines. J'ai pas claqué des doigts et non, c'est, il faut pas oublier que c'est une personne qui décède et qui dans un élan de générosité donne la vie, voilà. Mais c'est quand même un décès. Donc moi mon donneur, je le vois comme, quand on peut voir son papa ou sa maman, je le vois comme quelqu'un qui m'a donné la vie. C'est mon cœur, c'est pas celui de mon donneur, c'est mon cœur. Il a été celui de mon donneur, mais il me l'a donné. Donc quand on donne quelque chose, qu'on fait un cadeau, on dit pas, oh bah c'est la peluche de ma maman. Non, c'est ma peluche, donc ça c'est mon cœur, voilà, c'est un cadeau.
Est-ce qu'on y pense à ça, que c'est le cœur d'un autre?
Pas du tout.
Pas du tout.
Enfin, on y pense, mais dans le sens où, merci. Pas dans le sens où, oh là là, quelle horreur, j'ai l'organe qui a été dans le corps de quelqu'un d'autre. Non, pas comme ça. Mais on y pense parce qu'on pense à la personne avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour. On pense à elle, on pense parce qu'il est parti. Parce que je sais que c'est un garçon, donc c'est pour ça que je dis « il ». Donc oui, on peut avoir des cœurs de garçon quand on est une fille et des cœurs de fille quand on est un garçon. Que les garçons ne s'inquiètent pas, ils ne seront pas plus féminins puisque moi je ne suis pas plus masculine. Hein, donc il n'y a pas de souci. Mais oui, voilà, je pense à mon donneur avec beaucoup de respect, oui. Quand je me lève, quand je me couche, oui. On n'a pas de ressenti non plus, on ne ressent pas ce que le donneur a ressenti, parce qu'on m'a beaucoup posé de questions. Tu ressens les sentiments du donneur? Ah non, les sentiments c'est dans la tête, enfin, c'est bizarre, mais voilà. Non, tout est normal, c'est mon moteur, voilà.
Docteur Corinne Antoine, vous avez rencontré Aline Février-Boulanger, voilà un bel exemple de retour à la vie grâce à une greffe.
Oui, c'est son grand message d'ailleurs, c'est qu'elle a pu retrouver une vie normale. Elle avait donc une malformation cardiaque qui fait que son état s'est aggravé en fait assez brutalement. Et elle était donc sur le point de passer le bac, si je me souviens bien, et elle a pu reprendre ses études après l'intervention et reprendre une vie normale. Et d'ailleurs, un des premiers exemples qu'elle citait, c'était de pouvoir aller en boîte.
Bon, c'est important, avis, voilà, pour les jeunes, c'est une chose importante. Elle soulève importante. Une autre question, c'est que le don d'organes est anonyme. C'est une règle importante.
Oui, c'est
France.
Une des trois règles qui priment sur le don d'organes en France. Il est anonyme et il est gratuit.
Et pourquoi anonyme? C'est important.
Oui, c'est anonyme pour respecter d'abord le deuil des familles. C'est aussi important pour le receveur lui-même, pour pas qu'il y ait confusion dans la prise en charge de cette greffe, dans l'acceptation de cette greffe. Donc pour les deux parties, c'est important. Par contre, ce qui est important aussi, c'est de laisser une marge pour ces receveurs de manifester leur remerciement. Et par exemple, l'hôpital Saint-Louis met en œuvre une opération qui est très très belle, qui est donc un endroit de mémoire dans l'hôpital pour les familles des donneurs et les donneurs. Et au sein de la bibliothèque, un département particulier où tous les receveurs peuvent offrir un livre de leur choix avec une dédicace en faveur, enfin, une pensée pour leurs donneurs et pour les familles de ces donneurs. Et donc ces familles qui vont venir ensuite de nouveau à l'hôpital Saint-Louis, malheureusement dans le cas d'un décès, vont pouvoir éventuellement aller dans cette bibliothèque au fur et à mesure où ils seront pris en charge par la coordination de Saint-Louis. Et je pense qu'effectivement c'est des choses importantes. Il faut laisser cet espace de gratitude, de remerciement pour ses familles et pour ses donneurs. Et inversement, il faut que le receveur lui puisse se reconstruire. Et il faut aussi que ses familles, elles le peuvent, reçoivent des nouvelles anonymes du receveur. C'est-à-dire que régulièrement, les coordinations vont, si ses familles le demandent, vont donner des nouvelles anonymes et vont dire, bah voilà, le cœur est allé effectivement à un enfant de 15 ans, une dame de 30 ans, elle va très bien.
Que greffe-t-on justement? Alors le cœur, on y pense toujours, les reins.
Le cœur, les poumons, le rein, les reins, il y en a deux, le foie, le pancréas, de façon beaucoup plus rare les intestins, et puis il faut savoir aussi qu'il y a ce qu'on appelle les tissus et les cellules, donc en particulier les tissus, il y a donc les cornets, certains éventuellement des bouts de vaisseaux qui peuvent sauver des vies chez des gens qui ont des gros problèmes vasculaires.
Priorité santé, Claire Hédon.
Aujourd'hui, notre émission est consacrée à la greffe et au don d'organes. On retrouve Aline Février-Boulanger. Alors, elle raconte le retour à la vie après la greffe, des propos recueillis par Igor Strauss.
On se sent léger, on sent rien. Et puis, on regarde, on voit qu'il y a un cœur. On voit les électrodes, il y a un cœur qui bat. Et là, ça n'a pas de mots, quoi. On est sauvé. Puis on se sent tellement bien quand on est allongé qu'on se dit, bon, moi, ça y est, je vais me lever comme d'un miracle, je vais marcher. Il ne va pas y avoir de soucis, il n'y a rien. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire, la greffe, c'est quelque chose de merveilleux, mais c'est avant tout, il faut que le corps s'adapte au cœur et inversement, puisque j'ai jamais eu un cœur aussi beau, en fait. Donc, c'est-à-dire variation de tension. Qui dit variation de tension dit migraine. Donc, ceux qui connaissent les migraines savent que c'est atroce. C'est-à-dire qu'on pense qu'à ça, ça tape dans la tête. C'était tous les jours des migraines. Constamment, je me réveillais avec des migraines, je me couchais avec des migraines. Et puis, mes migraines, ça m'a amené des taches blanches devant les yeux. Donc, je voyais rien. Enfin, c'était catastrophique. Après, il a fallu réapprendre à marcher. Voilà, on est sauvé, mais après, il faut apprendre à vivre avec son corps, avec son cœur. Donc, il faut de la patience. J'en ai un peu manqué vers la fin. Mais bon, c'est vrai que le traitement est lourd, puisque, raison de 27 cachets par jour.
Aujourd'hui encore, vous en êtes à 27 cachets par jour.
Oui.
Donc, pour éviter les rejets, toujours.
Oui, et puis après, il y a pour la tension, il y a le fer, il y a le magnésium, il y a plein de choses autour, il y a contre le cholestérol, énormément de choses préventives, en fait, dans ce traitement. Mais bien sûr, les anti-rejets que je devrais prendre à vie, le reste va s'estomper. Et oui, l'inconvénient des corticoïdes, c'est... C'est-à-dire que ça fait gonfler, on se rend pas compte comme ça. C'est-à-dire que moi, on m'a dit, Aline, ne t'inquiète pas, t'as des poils qui vont pousser. Bon, je me suis dit, les poils, c'est bon, j'en ai déjà pas mal, je suis habituée, y a pas de souci. Non, mais non. Donc les poils ont commencé à pousser sur le visage, dans le dos, j'ai commencé à avoir de la moustache, et j'avais des jambes d'homme. Mais au sens propre. Ah, j'ai dit, ah oui, quand même, bon, il y a de quoi faire, là. Non, mais bon. Et je croyais que ça allait jamais partir. Moi, j'étais un peu paniquée, mais je me disais, c'est bon, je suis à l'hôpital, donc ça va, je ne sors pas. Bon, sur le moment, on n'y pense pas au début, parce qu'on se dit, c'est bon, je suis sauvée. Mais après, ça commence à peser un peu, qu'on se dit, il faut qu'ils partent, ces machins, c'est pas vrai, on a envie de s'épiler.
Vous avez 19 ans, vous êtes une jolie jeune fille avec.
Avec des poils, voilà.
Avec des poils.
Mais bon, c'est parti, heureusement. Il en reste un peu, mais pas énormément, voilà.
Alors, il y a aussi le problème de la cicatrice.
La cicatrice était rouge, boursouflée, j'étais bleue autour, comme si on m'avait tapé. Je veux dire, tout le haut de mon corps était bleu, donc ça, c'était quand même un corps meurtri. Mais maintenant, je la supporte super bien. Bon, là, aujourd'hui, j'ai pas un décolleté, mais hier, j'en avais. Je me bats dans la rue et je la arbore fièrement. Ça n'a aucune atteinte à ma féminité, comme certaines personnes pouvaient le croire ou le dire. Pour moi, c'est une fierté parce que c'est une belle cicatrice. C'est celle qui m'a donné la naissance. Et puis, c'est aussi un hommage à mon donneur quand même, puisque c'est magnifique. Quoi. Je veux dire, il n'y a pas à cacher, il n'y a pas de honte à avoir. Et puis, je la arbore fièrement. Voilà, c'est ma fierté, ma cicatrice. Il faut savoir que les transplantés, vous en croisez tous les jours sans savoir qu'ils sont transplantés. Moi, je veux dire, quand les gens vois que je suis transplantée. Non, on m'en dirait pas que t'es transplantée. Mais j'ai fait, attends, tu crois quoi? Tu crois que c'est marqué transplantée sur le front? J'ai fait transplantée, t'en croises tous les jours, ça se trouve. On est comme tout le monde. Et on vit peut-être même mieux que tout le monde parce qu'on fait attention. On fait très attention à l'hygiène. On fait très attention à tout. Et on vit au jour le jour. Ça, c'est magnifique. Chose que les autres n'ont pas.
Docteur Corinne Antoine, effectivement, on vit bien après une greffe, malgré le suivi.
Oui, il y a un vrai retour à une qualité de vie. Et toutes les études le montrent et tous les patients le disent, c'est-à-dire qu'on passe de la maladie chronique où on a un voire deux organes défaillants avec une extrême fatigue et effectivement la perspective de mourir si on n'est pas greffé rapidement, à le retour à une vie normale, c'est-à-dire qu'effectivement le nouvel organe va reprendre ses fonctions à temps plein, si je puis dire, et après une certaine période de rééducation, on va reprendre une vie normale. On va retravailler. Les femmes, j'ai dit, vont pouvoir avoir des enfants, ce qui n'est pas possible.
Ça, c'est important.
Et voilà. Donc, effectivement, il faut s'installer dans la prise au long cours de médicaments.
Éviter le rejet de l'organe. Hein,
c'est les médicaments, ils ont plusieurs buts. Il y a ceux qui vont effectivement éviter le rejet. Il faut savoir que nos défenses sont habituées à reconnaître tout ce qui est étranger sous la forme d'un code barre qui est le système HLA. Et en fait, on va essayer par les médicaments de paralyser cette reconnaissance pour empêcher que nos défenses reconnaissent l'organe comme étranger et le détruisent. Et ces médicaments, quand même, se sont très très nettement améliorés ces 15 dernières années. D'abord en efficacité, mais aussi en fait, on est parti sur des stratégies d'association de plusieurs médicaments entre eux pour en diminuer les doses de chacun et donc diminuer les effets secondaires intrinsèques à chaque médicament. Et par exemple, maintenant, la plupart des protocoles de traitement évitent les corticoïdes. corticoïdes dès le, enfin, on n'a plus de corticoïdes dès les premiers jours de la greffe et donc avec tous les effets secondaires liés aux corticoïdes.
C'est vraiment un domaine où la médecine progresse très vite.
La médecine progresse très très vite. Sur, par exemple, sur les 8 dernières années, il y a 4 classes de médicaments, enfin 4 nouveaux médicaments qui sont sortis, qui sont maintenant disponibles pour les traitements anti-rejet. Donc d'abord, ça nous donne une plus grande palette pour pouvoir mieux choisir le médicament qui va être adapté au patient en fonction de ses antécédents. Effectivement, on va éviter ceux qui donnent des poils pour les jeunes filles.
On a plein attention à tout ça maintenant.
Oui, parce que la compliance, c'est-à-dire le fait de bien prendre ses médicaments, est très importante pour la suite. C'est même d'ailleurs l'élément majeur qui fait que cette greffe est un succès, c'est que le transplanté se sente bien avec son traitement et dans sa vie de tous les jours.
Quel est le rôle de l'agence de biomédecine dont vous faites partie? Vous êtes membre de la direction médicale et scientifique. Elle fait quoi, cette agence de biomédecine?
Alors, cette agence de biomédecine, elle a plusieurs missions. D'abord, il faut savoir qu'elle s'occupe non seulement du domaine du prélèvement et de la greffe, c'est-à-dire elle a repris les missions de l'établissement avancé des greffes, mais elle a aussi maintenant des missions sur l'embryologie, la génétique humaine, la reproduction. Alors, pour le domaine qui me concerne, que je connais mieux, qui est la greffe et le prélèvement, elle est d'abord en charge de la promotion sur le don. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui.
C'est pour ça que vous êtes là. Et c'est eux qui mènent en ce moment cette campagne.
C'est eux qui mènent cette campagne. Bon, les associations de patients aussi, bien sûr, militent et toutes les volontés sont attendues. Il y a là aussi un rôle très important dans la coordination du prélèvement, le respect, par exemple, de tout ce qu'on appelle la sécurité sanitaire, vérifier que les greffons ne transmettent pas d'infections, de maladies. Elle a un rôle majeur dans les règles d'attribution et de répartition des greffons, qui sont des règles transparentes, qui essayent d'associer à la fois des principes d'équité, de justice, mais aussi d'efficacité pour le succès de la greffe. Elle a aussi des missions d'évaluation des résultats de la greffe en France.
À quel moment peut-on décider de prendre un organe sur quelqu'un? Quel est le moment? Il y a toujours cette histoire de la mort clinique. À quel moment peut-on prélever des organes? Et peut-on commencer à demander à la famille est-ce qu'on peut prélever des organes?
Quand le diagnostic de mort encéphalique est fait, c'est-à-dire on a deux façons de mourir, soit le cœur s'arrête, 99% des décès, si je puis dire, et l'autre situation, c'est quand le cerveau s'arrête, c'est-à-dire quand le cerveau est détruit, puisque le sang n'arrive plus jusqu'aux cellules du cerveau, donc il est détruit. Il faut savoir en fait que le cœur ne vit pas sans cerveau et le cerveau ne vit pas sans le cœur. C'est deux organes qui sont dépendants l'un de l'autre. Et en fait, on peut encore entretenir quelques heures de façon artificielle les battements du cœur et la respiration.
C'est ça qui est entendu difficile
voilà,
à comprendre.
Voilà, mais seulement quelques heures en fait. Hein. Et c'est ça qui est difficile à comprendre. Donc le cœur bat encore parce qu'il est entretenu par des drogues et par diverses manœuvres de réanimation. Le poumon, lui, ne fonctionne plus. C'est juste des machines qui insufflent de l'air pour qu'il y ait de l'oxygène qui passe dans le sang, mais le cerveau est mort et de toute façon donc le cœur va s'arrêter malgré tout ce qu'on pourra entreprendre. Donc on va d'abord prouver cette mort du cerveau, ce qu'on appelle en jargon médical la mort encéphalique. On a plusieurs examens qui peuvent le prouver et une fois qu'elle est prouvée, le décès est déclaré par les médecins, deux médecins sur place, et c'est quand ce décès est déclaré que les coordinations, donc un médecin et une infirmière, dans ces cas des coordinations hospitalières, vont aller voir les proches.
Pour leur demander.
D'abord leur annoncer le décès.
Voilà.
Et ensuite, leur demander quelle était la position du défunt, de son vivant, si c'était positionné contre ou pour le
Un dernier mot pour terminer cette émission, docteur Corinne Antoine, on l'a dit en début d'émission, il y a encore beaucoup de refus. Y a-t-il des pays qui arrivent mieux que nous, finalement, à convaincre?
Oui, juste un pays qui est juste après les Pyrénées, c'est-à-dire l'Espagne. On ne peut pas dire que ce soit un pays fondamentalement différent d'une autre. Ils sont d'abord à 35 donneurs par million d'habitants, nous on n'est qu'à 23, et pourtant on a énormément progressé. On est juste derrière l'Espagne. Et c'est quoi la différence? Elle est beaucoup aussi dans le taux de refus. L'Espagne, c'est 12 ou 15% de refus, voire 10% dans les grandes villes. Et en France, on ne décolle pas du 35% de refus des proches par faute généralement de connaissances.
Donc on devrait pouvoir progresser. C'est l'objectif de cette campagne
parce que c'est vraiment un point sur lequel on peut progresser à l'avenir.
Docteur Corinne Antoine, merci. Donc je rappelle que demain se déroule la journée nationale sur le don d'organes et la greffe avec pour thème dire sa position, c'est aussi aider ses proches. Et je vous rappelle aussi qu'Aline Février Boulanger a publié un livre où elle raconte son histoire justement de greffer. Mon cœur qui bat n'est pas le mien. C'est paru chez O Éditions. Au revoir à tous et à demain.